Vous écoutez RTL.
It's the movie that sparked the disco inferno. Saturday Night Fever.
John Travolta and Bruce Willis.
RTL.
A new film from Quentin Tarantino.
La curiosité est un vilain défaut.
Pulp Fiction.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Nous sommes au théâtre Mogador à Paris pour célébrer la première de la comédie musicale Grease. On vous raconte à cette occasion les secrets de la carrière de John Travolta avec le fou de cinéma Vincent Perrault.
Comment compulsif, oui.
Compulsif.
À ce moment-là,
vous êtes l'homme qu'il nous faut.
Et passionné de John Travolta, parce que c'est un personnage qui m'a toujours énormément intéressé, je dirais même un petit peu fasciné. C'est un des grands modèles du cinéma américain. C'est-à-dire que c'est quand même le garçon qui arrive de nulle part, qui devient star en 3 minutes, qui fait une traversée du désert monstrueuse, qui, à l'âge de la maturité, revient et ne quitte plus ni l'écran.
Vous nous avez donné envie de rester là.
Et vous êtes venu avec votre perfecto, Vincent. Est-ce que Travolta, c'était un peu un modèle quand vous étiez ado?
Alors, faut pas exagérer, même bon. Si je suis quand même...
Vous avez les cheveux pour faire la banane, hein,
j'étais
sérieux.
J'étais un peu envieux du héros quand même de la fièvre du samedi soir.
Ça, on va en parler.
Parce que danser comme lui, on a tous un peu essayé, on s'est tous cassé la figure, on s'est tous fait mal au coccyx.
Dans le noir, dans une boîte, ça passe. Hein. Ouais. Comment John Travolta se retrouve justement à l'affiche du film Grease? Comment ça commence?
Alors, écoutez, il faut se dire que John Travolta, a priori, il est vraiment comme des millions de petits Américains qui sont d'une famille nombreuse, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il est le cadet de 6 enfants. A priori, ce serait sa maman qui était un petit peu actrice, qui lui aurait donné un peu le virus de la comédie. Mais surtout, il n'est pas copain du tout avec l'école. C'est pas un très bon élève, il se sent pas à l'aise dans le système éducatif. Et il a qu'une envie, c'est de se tirer. Maintenant, il faut aussi bien faire quelque chose.
Donc il va abandonner le lycée.
Alors, il abandonne le lycée à l'âge de 15-16 ans, ouais. comme beaucoup d'ados. Mais c'est pour faire quelque chose. Il y en a qui deviennent des petits voyous, des zonards. Non, lui, il veut devenir, et c'est ça la particularité de Travolta, non pas juste un acteur et être connu, faire connu comme on dit aujourd'hui, mais ce qu'il veut, c'est être un artiste à 360 degrés, c'est-à-dire dans la grande tradition des Liza Minnelli, vous voyez, il veut être chanteur, danseur et savoir jouer la comédie.
Et ça va commencer par quoi en fait?
Être complet.
Des cours de claquettes, de danse?
Alors, oui, je vois que vous êtes au courant, c'est-à-dire que nous, ça nous paraît toujours un peu ringard les claquettes. D'ailleurs, aux États-Unis, on dit du tap dance parce que c'est la danse qui tape, c'est une grande tradition américaine et il décide de faire le boulot sérieusement, c'est-à-dire qu'il va courir le cacheton, il va pas être là à ruminer dans son coin à attendre qu'on vienne le chercher, il y va, il prend des cours avec le frère de Gene Kelly quand même, qui de mémoire je crois s'appelle Fred Kelly, oui. et puis surtout il va faire comme beaucoup d'autres jeunes apprentis, il va chercher des petits rôles, il faut qu'il s'essaye, il faut qu'il commence à avoir de l'expérience, il faut qu'il se fasse remarquer par des producteurs, il est à New York, il va à Broadway et chose amusante, il obtient même un petit rôle dans Grease à l'époque.
C'est vrai, dans la comédie musicale.
Dans une des anciennes comédies musicales.
Et vous
musicales.
Vous souvenez de quel rôle?
Alors non, pas du tout.
C'est parce un des gars quoi, qui danse, qui chante.
C'était un figurant, voilà. Mais c'est quand même drôle. Jamais il aurait pu imaginer qu'il tiendrait un jour le rôle principal au cinéma, évidemment. Donc il cachetonne, il voit tout ça. Et puis, un jour, grâce à la télévision, il est le héros d'une série qu'on ne connaît pas en France, qui s'appelle Welcome Back Cutter, qui lui amène une sorte de notoriété. Il chante même un peu, il fait un tube, il fait un hit. À un moment donné, et on commence à entendre un peu parler de lui comme ça.
Alors en 76, il a 22 ans, il sort un premier single, écoutez.
C'est ça. Something she said has stuck in my head and I can't get away. Gonna let her in.
Gonna let her in. Il y a André Facetta, notre réalisateur, qui nous propose de danser un slow.
Mais
vous
êtes
preneur, Vincent.
Vous pouvez revoir les images, il chante dans une émission de télévision, Letter In, oui. John Travolta, il a les cheveux longs, soyeux, brillants, il est en pas de def, vous savez, en velours, il est divin.
Il a le look de son époque, c'est un garçon de son époque, hein, complètement, c'est l'américain, beau, décontracté.
Non mais pardon, parce qu'il chante cette chanson comme ça, parce qu'il décide de devenir chanteur aussi,
non.
John Travolta, c'est
alors,
juste pour le plaisir.
Non, vous savez, dans ce métier, les artistes décident rarement, hein. Ils décident parce qu'on leur propose surtout et qu'à un moment donné c'est une opportunité, mais c'est pas vraiment ce qu'il veut parce qu'il sait très bien que son atout majeur n'est pas sa voix, son atout majeur c'est son corps et son charisme, c'est donc un danseur et un comédien avant tout, mais on lui propose de chanter, il le fait, d'ailleurs il enregistre, moi j'ai des albums que j'ai achetés aux États-Unis, des albums de lui. c'est gentillet, quoi. C'est un peu à son image, c'est-à-dire de la bluette, du romantique, du don Juan, image dont il faudra qu'il se débarrasse un petit peu plus tard.
Et ce talent multifacette dont vous parliez, entertainer, chanteur, danseur, comédien, évidemment, il va le mettre à profit dans son premier grand succès, c'est ce film.
Formidable. Regarde, Franck, regarde. C'est ça, allez.
La fièvre du samedi soir, ah. Forcément, Vincent Perrault.
Le premier film disco, oui. C'était écrit sur la fièvre.
Réalisé par Sylvester Stallone.
Alors,
en partie, c'est ça ?
Alors, c'est pas le premier. Hein. Le premier réalisé par John Badham.
Ah oui, c'est ça.
Et Stayin' Alive, la suite, était réalisée par Stallone qui fait une petite apparition. Mais ce qui est très important, c'est qu'il a envie, Travolta, de faire du cinéma. Il a envie de devenir une vedette de cinéma. Et un petit rôle assez marquant dans Carrie au bal du diable de Brian De Palma va être déterminant.
C'est son premier grand rôle, ça.
Ouais. C'est un rôle secondaire, mais on le remarque. Oui. Et parce que c'est vraiment un petit enfoiré dans le film. Il fait vraiment du mal à Carrie. Mais je vous dirai après pourquoi c'est important. Là, il se trouve que ce qui va être déterminant pour lui, c'est évidemment le rôle de Tony Manero. Hein. Mais c'est, sa chance, c'est d'être multicasquette. C'est d'être un assez bon comédien, d'avoir eu un peu d'expérience et de savoir danser et un peu chanter, même si là, on ne lui demande pas.
Après Grease, en 1978, John Travolta est au top de sa popularité, de sa beauté, de son talent. Et pourtant, sa carrière va souffrir. On vous raconte pourquoi sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
Vous écoutez RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité depuis le théâtre Mogador à Paris pour la première de gala de la comédie musicale.
Et il y a du monde. Hein.
Louise, il y a du monde dans les coulisses et ça fait plaisir de voir des visages connus et souriants. Et on est avec un autre visage connu et souriant, ô combien celui de Vincent Perrault.
Ça m'arrive.
Pour nous raconter la saga John Travolta. Donc on a parlé de ce premier rôle, Carrie au bal du diable, réalisé par Brian De Palma. Pourquoi ce réalisateur joue un rôle essentiel dans la carrière de Travolta ?
Parce que Travolta est un jeune acteur, que Brian De Palma est déjà un réalisateur confirmé et qu'ils s'entendent très bien. Et qu'après La fièvre du samedi soir, qui, ne l'oublions pas, est quand même une explosion mondiale immédiate. Oui. N'oublions pas que tout jeune, premier rôle important au cinéma, il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Il sera d'ailleurs, j'ai pas vérifié si c'était le plus jeune, mais c'est en tout cas l'un des plus jeunes nommés de toute l'histoire. Et au milieu de tout ça, il y a Robert Stigwood, qui est le producteur de Saturday Night Fever, qui fait un tel carton, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il fait de tels profits, qu'il se dit, j'ai ce garçon sous contrat, faut lui trouver autre chose. Et il trouve Grease et il l'associe à Olivia Newton-John et rebelote. C'est-à-dire que là, en plus de chanter et de jouer la comédie, enfin de danser et de jouer la comédie, là, en plus, il chante. Mmh. Il est dans la BO du film, il devient l'artiste complet.
Donc, ce qui est super dur.
Il a toujours rêvé d'être.
Après Grease, il faut faire le bon choix, en fait.
Alors,
c'est ça.
Donc, et c'est là le problème.
Il va tomber dans les pattes de Brian De Palma.
C'est là que revient Brian De Palma.
C'est-à-dire qu'il est une sorte d'idole de la jeunesse. Il est le grand romantique, un peu guimauve, il faut bien le dire.
Oui, on a envie de l'embrasser, quoi.
Et là, il a envie, lui, de montrer qu'il sait faire autre chose. Comme vous savez, quand vous réussissez dans quelque chose, la première chose que vous avez envie, c'est de montrer que vous savez faire autre chose.
Un grand rôle dramatique.
Et là, il fait le siège de Brian De Palma, dont il apprend qu'il fait un film policier assez dur, qui se termine très mal, qui est difficile. Et il lui dit, je veux ce rôle, Brian. Et comme ils se sont bien entendus, dans Blowout, il lui confie le rôle d'un ingénieur du son qui dénoue une sorte d'attentat avec un homme politique, un assassinat avec une prostituée. Et le rôle est très marquant. Le film sera un échec. Il va morfler un peu, mais c'est ce qui va montrer à toute la profession qu'il sait chanter, danser et être émouvant.
Mais ce film, Blowout, va devenir culte pour John Travolta et c'est ce qui va permettre à un autre très grand réalisateur plus tard de lui offrir une chance.
Oui, parce qu'il galère. Il a fait et effectué une des plus terribles traversées du désert qu'ont pu avoir certains acteurs américains. C'est terrifiant. On ne voulait plus de lui. Il portait la chkoumoune. Et tout d'un coup, un certain Quentin Tarantino, qui est un cinéphile compulsif lui aussi, et qui, en dehors des vedettes du moment, aime bien se tourner vers le passé et vient toujours rechercher David Carradine pour Kill Bill. Et là, il lui a fait le même coup à Travolta en lui disant, John, il faut faire un clin d'œil. Je vais faire de toi un tueur avec une coupe de cheveux hideuse, un peu débile.
Il a l'habitude
seulement
de ces
coupes-là. Pas à ce point-là quand même. Hein, parce que là,
il était
gratiné. D'ailleurs, les guignols s'en sont servis pour faire la même chose avec Jacques Chirac, souvenez-vous, à l'époque.
Vrai.
Et en attendant, il dit, mais seulement, tu vas danser et tu vas nous refaire la chorégraphie de La fièvre du samedi soir. Et ça a été une révélation parce que Travolta, on savait plus qui c'était.
Ça le relance.
Ah, mais c'est pas que ça le relance. Ça le remet non seulement au goût du jour, et tout le monde l'appelle.
Nommé aux Oscars et de nouveau.
Nommé aux Oscars de nouveau, vous vous rendez compte, le comeback absolu. C'est vraiment une histoire typiquement américaine.
Alors,
ça.
John Travolta, et ça aussi c'est une histoire typiquement américaine, ce sont aussi des rumeurs. Et il paraît que John Travolta a demandé l'autorisation à l'église de Scientologie pour jouer ce rôle dans Pulp Fiction. Vrai ou faux?
Écoutez,
ou je sais pas.
Le peu que je sais de John Travolta est que c'est quelqu'un qui ne demande l'autorisation à personne de faire ce qu'il a envie
c'est
de faire.
C'est le boss.
C'est le boss, c'est un franc-tireur, c'est un indépendant, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sous contrat avec un studio, il accepte ce qu'il veut, il refuse.
Mais
ce
sous contrat avec l'église de Scientologie?
Alors,
ça
n'est pas une rumeur. Et contrairement à Tom Cruise d'ailleurs, qui est toujours évasif là-dessus quand on lui pose la question, lui il assume parfaitement. Il dit oui, j'en fais partie, oui, les valeurs de Ron Hobard me conviennent, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma famille. Et d'ailleurs, il le rend bien, et on voit bien qu'il ne se cache pas, puisque non seulement le père fondateur de l'église de Scientologie, Ron Hobard, qui est un écrivain de science-fiction que vous connaissez, est quelqu'un d'extrêmement connu et apprécié en dehors de cette partie un peu particulière de sa vie. Et il décide d'ailleurs d'adapter, de produire lui-même un film qui s'appelle Battlefield Earth, qui est un film de science-fiction odieux.
Oui.
Mais il s'investit énormément là-dedans et ce film transporte toutes les valeurs de la scientologie. C'est vous dire, s'il rend l'appareil, il se met en avant, il ne cache pas.
En tout cas, avec ou sans l'accord de la scientologie, ce Pulp Fiction, vous nous l'avez dit Vincent Perrault, relance la carrière de Travolta. Il redevient bankable. Ça veut dire qu'il touche combien par film, Travolta?
Plusieurs millions de dollars, parce que tout d'un coup, il rapporte de l'argent et on rebâtit des films sur son nom. Et là où John Travolta est intelligent, et ce qu'il aurait voulu faire d'ailleurs à l'époque de Blowout, c'est qu'il ne fait plus des petites bluettes d'amour. Là maintenant, il fait des polars.
Il joue des méchants. C'est-à-dire
qu'il a pris de jolies rides au coin des yeux, il est viril en diable.
Il a toujours sa gueule incroyable avec sa fossette.
C'est vrai, il est toujours. Ouais. Il est super bel homme dans la quarantaine, cinquantaine. Il y a des rumeurs d'homosexualité, mais on s'en fout. Il fait partie de l'église de Scientologie, mais le public s'en fout. Ça ne torpille plus sa carrière. Il se coupe les cheveux, il commence à avoir un peu les tempes grises. Il fait des polars, Opération Espadon, Volte-Face, Broken Arrow, et là il trouve son truc. Ça devient, il fait de la musculation.
Le bad boy.
Le bad boy, il joue même dans un film de Harley Davidson incroyable. Il a de l'humour sur lui-même, ce qui est très très important, et du coup ça marche pour lui. Voilà.
Alors c'est quoi la vie de John Travolta en dehors des tournages?
C'est curieux, vous.
Pourquoi dit-il qu'avec sa femme et ses enfants, ce sont des gitans de luxe? Question. Et réponse à venir dans un instant sur RTL.
RTL.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL aime la musique.
Des standards. Money,
money, mais aussi des nouveautés.
We are from the north. We came from the south. We are the
et des découvertes.
Quand les souvenirs s'en mêlent.
On aime la musique sur RTL.
RTL. Première radio de France.
Ladies and gentlemen, please welcome one of your favorite television and recording stars,
John Travolta.
Oh, Sandy, baby.
La curiosité est un vilain défaut.
Never I'm away from you, baby.
RTL.
There's nothing much I wanna do, oh baby.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Portrait d'un acteur talentueux, sulfureux sur RTL. Nous sommes au théâtre Mogador à Paris pour la première de la comédie musicale Grease et on vous dit tout sur John Travolta. On veut tout savoir, on est très curieux. Vincent Perrault, on a parlé du professionnel, on va parler du privé. Déjà, il vit où, John Travolta? Et dans quoi? Un petit meublé?
Alors, c'est-à-dire que comme il a la chance d'être multimilliardaire, eh bien, il a des maisons un petit peu partout. Il est officiellement basé en Floride, mais il a une maison à Hawaï, il a quand même une maison du côté de la Californie. C'est quand même là-bas que le cinéma se fait. Il faut pouvoir aller partout et être chez soi.
Et comme il est multimillionnaire, il a un aéroport chez lui.
Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il est depuis toujours ultra passionné par l'aviation. Il a son brevet de pilote, il peut piloter un certain nombre de petits appareils, mais comme ce garçon a quand même un peu la folie des grandeurs et puis que quand votre vie est démesurée, vous pouvez tout vous permettre, il a acheté un Boeing 747. Un Boeing 747.
On a peut-être déjà voyagé dedans ou pas?
Dont le nez... Non, mais il est à lui. Il lui appartient. C'est-à-dire qu'il a construit sa maison aux alentours d'un aéroport, d'un aérodrome, et j'ai vu la photo... le nez de l'appareil à un garage qui dépend du bâtiment de sa maison. C'est-à-dire son Boeing 747, c'est comme nous on a un garage avec une voiture, lui il a un Boeing là. Et alors, il n'a pas le droit officiellement de faire des traversées atlantiques avec, mais il le fait quand même, il a un pilote officiellement, mais
ah oui,
tout à fait capable
mais
de le faire.
Mais il tient les commandes, ouais,
ah oui, d'accord. Oui, oui. Et quand il part avec toute sa petite famille, tout le monde dans le Boeing, et on va au bout du monde, et il peut se poser n'importe où.
Et c'est pour ça qu'il parle de gitan de luxe.
Voilà,
d'accord. Okay, oui,
parce qu'il bouge sans arrêt, c'est pas une roulotte, mais non, mais le mec qui a son Boeing 747, vous voyez,
c'est
à l'échelle américaine et c'est tout à fait représentatif.
Et sa femme, c'est un avion.
Alors, c'est un avion de chasse.
Avec moi qui peux la faire. Hein.
Oui, parce que moi, si je la fais, je me fais engueuler direct.
Moi, je vous le dis, c'est un avion de chasse.
C'est vrai ?
Mais oui, oui, oui. Alors, c'est une comédienne bon, qui n'a jamais fait grand-chose, honnêtement, qui a été un petit peu mannequin.
Kelly Preston.
Beaucoup, voilà, beaucoup de téléfilms. Elle a souvent joué dans les films de son mari, des petits rôles.
Ils sont ensemble depuis combien de temps ?
Elle était maman. Oh, ça fait longtemps. Hein. Ils sont mariés. Il est apparemment assez fidèle. Enfin, assez fidèle aux femmes parce qu'on lui prête aussi des liaisons masculines. Il y a eu des rumeurs de beau sexuel.
Oui, il y a un livre qui est carrément sorti il y a un an avec l'un de ses ex-amants.
Oui,
il
aurait fait des avances à un masseur aussi. Mais ça, ça fait partie de la légende.
Alors là, c'est même un abus sexuel dont qu'on soupçonne. Mais
vous
bon.
Savez, aux États-Unis, à quoi tiennent les choses ? Le harcèlement, c'est une notion quand même très, très. Enfin bon, où est la proposition ? Où est le harcèlement ? Ça, c'est une autre histoire.
Vincent Perrault, j'allais vous appeler John Travolta. c'est à cause du perfecto.
Je n'ai pas trop
cette.
C'est à cause du perfecto. Il y a un drame dans la vie de Travolta.
Oui,
c'est la mort de son fils aîné. On est en 2009. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est la chose dont il ne se remettra jamais, c'est-à-dire que c'est un homme qui est très proche de sa famille, de sa femme, de ses trois enfants. Et bon, il sait depuis la naissance que l'un de ses fils, effectivement, a ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki, le syndrome de Kawasaki. C'est un syndrome qui pose des problèmes artériels, qui finit par boucher des artères et qui, du coup, débouche la plupart du temps sur des infarctus du myocarde. Et parfois même, et souvent chez des gens très très jeunes. Et c'est ce qui s'est passé avec son fils, c'est-à-dire qu'il a fini un matin, je crois que c'était dans la maison de Hawaï justement,
c'est en 2009, ouais.
Dans la salle de bain, tout d'un coup, il est mort dans les bras de son père, il appelle des secours et John Travolta dit « venez vite, je le perds » et c'est exactement ce qui s'est passé, il est mort de ce syndrome en faisant un infarctus.
Toute une polémique là-dessus aussi, parce qu'on a les proches ont dit dans la presse qu'en fait il était autiste et que les parents n'ont jamais voulu voir ça et qu'ils ne l'ont pas soigné, que l'église de Scientologie a empêché de soigner l'enfant de Travolta, j'en pensais quoi ?
Je n'y étais pas, mais ce que je peux vous dire, que s'il avait un autisme bénin, ce qui est possible, il était surtout atteint de ce syndrome qui est extrêmement dangereux et qui fait qu'on a une espérance de vie tout à fait limitée. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'église de Scientologie, évidemment, décommande, voire interdit les prises de médicaments et que néanmoins, Travolta soignait son fils au mépris de ce que recommandait l'église de Scientologie.
Mais en essayant de quitter l'église de Scientologie
non,
ou en restant
tout,
membre ?
Non, pas du tout, en étant père de famille, tout simplement, et en voulant soigner son fils. Et finalement, il a arrêté les traitements parce qu'il y avait des événements, enfin des effets secondaires très importants qui devenaient plus ennuyeux pour le foie que ça ne guérissait le petit. Et voilà, donc c'est le drame de sa vie, parce que c'est un homme à qui tout réussit à partir du moment où il est revenu après Pulp Fiction. Tout est bon pour lui, il a la vie rêvée des anges. Et là, le drame absolu, votre fils qui meurt dans vos bras, on se remet difficilement, on se relève difficilement d'une chose pareille.
Merci Vincent Perrault pour ce très beau portrait
Vincent.
De John Travolta
voilà.
En cuir. Vincent qu'on retrouve de 5 à 7, vous n'êtes pas toujours en cuir, en sweat parfois
je
le week-end.
Je suis toujours en perfecto, shot,
c'est vrai,
évidemment.
C'est cool. Stop ou encore sur RTL, c'est samedi et dimanche aussi, dès 10h15, vous faites nos week-ends.
Et je me lève de bonne heure,
bah oui.
C'est-à-dire quitte à me lever,
autant faire toute l'antenne du week-end.
Voilà, exactement.
Merci Vincent, à très
merci
à très
de votre accueil les amis, à bientôt.
Plaisir.
Voilà, c'est la fin de cette émission, c'était un bonheur d'être depuis le théâtre Mogador pour cette première de Grease. Vous pouvez nous réécouter en podcast évidemment sur rtl.fr.
On se retrouve demain à 14h pour une nouvelle émission alors que la Terre a tremblé à Rennes avec une secousse de 3,9 sur l'échelle de Richter. On découvrira les mécanismes secrets des tremblements de terre.
Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Tout de suite, c'est RTL, grand soir. RTL, il est 22h.
Vous écoutez RTL.